des voix, des histoires. C'est la base. La base, Bruxelles nous appartient.
Bonjour, alors je suis née femme, malheureusement, et mon identité officielle, le prénom est difficile à prononcer parce qu'il a été hurlé pendant toute mon enfance, donc je hais ce prénom que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire changer parce que ça coûte beaucoup de sous, quoi, voilà. Et donc le prénom de naissance c'est V-E-R-O-N-I-Q-U-E. Et mon prénom d'adoption, que j'ai trouvé enfin, définitivement, c'est Kim. Voilà, je l'ai trouvé définitivement quand j'avais 19 ans. Mais depuis toute petite, je cherchais à changer de prénom. Donc, je suis passée par Vicky, des choses comme ça. Même mon oncle m'aidait à chercher, mais ça ne me convenait pas, puisque ce n'était que des subterfuges du prénom de naissance, qui, de toute façon, même les autres prénoms, tant que j'étais enfant, sont restés hurlés. Donc, voilà, voilà. Alors, je ne vais pas dire que j'ai raté ma vie, parce que maintenant, je m'engage dans ce qu'on appelle la politique. Je n'aime pas du tout le terme politique. Je suis engagée depuis 3 mois, et avant, j'étais complètement apolitique. Donc, pour moi, c'est déjà étonnant. On m'avait dit un jour que je me présenterais aux élections. J'aurais dit que ce n'était pas possible, parce que ce n'était pas du tout dans ma mentalité, mais puis je me rends compte que si je veux que les choses changent, eh bien c'est moi qui dois les faire changer. Je peux pas compter sur les autres. Voilà, même si c'est très très dur à faire, et même si je viens aujourd'hui avec une entorse du genou, une entorse de la cheville, et le poignet est dans un état assez lamentable, mais je suis venue. Voilà, ça fait partie du combat. Le combat est moral et physique.
Et donc vous êtes engagée sur le plan féministe.
Oui. Féministe. Et pour la communauté LGBTQIAP++, également, dans laquelle j'ai énormément d'amis, et je me suis intéressée plus particulièrement au fait qu'on en arrive encore à une forme de sexisme. C'est absolument épouvantable dans la société. Il y a ce qu'on appelle les enfants intersexes. Il y en a 1 sur 200 qui naît. C'est une chose normale. Il y a des hermaphrodites, il y a des enfants qui ne sont pas un genre défini. Et il faut leur donner un sexe. En fait, la société n'est que sexe. Alors qu'une personne humaine est un cerveau, un cœur, des jambes, enfin, les bras. Et c'est quoi ça? On pourrait peut-être parler de genre, ça serait quand même beaucoup mieux, première chose. Puis des genres, il y en a plein dans la nature. Et donc j'ai appris, pas spécialisé, mais... Enfin, c'est le sujet que je vais essayer de défendre au point de vue politique, parce qu'en Belgique, la torture est illégale. Et on pratique dans les hôpitaux de nos jours une torture qui est légale sur ces enfants. Et on demande aux parents de choisir le, entre guillemets, sexe qu'ils veulent. Oh ben tiens, allez, on va choisir. C'est quoi, hein, une petite Barbie ou un petit Ken, non? Et voilà, et donc on pratique des opérations multiples tout au long de la vie de ces enfants, jusqu'à leur 16 ans ou 18 ans, ça dépend. Et puis on leur donne évidemment des hormones, etc., etc. Et ça donne des personnes qui ne sont pas dans le bon corps. Ça donne des personnes également qui ont d'affreuses mutilations, qui souffrent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque opération, il y a des douleurs physiques et des douleurs morales, bien entendu. Et je trouve ça absolument épouvantable. Et voilà, c'est encore du sexisme, du genrisme, on va dire plutôt, là, dans ce cas-là.
Donc ça, c'est un de vos combats
Ah oui, parce que je ne peux pas laisser faire ça. Moi, franchement, en tant que femme, je n'ai pas réussi ma vie parce que je suis femme. Maintenant, j'ai trouvé... moi, je ne pourrais jamais me représenter parce que je ne m'aime pas, on ne m'a pas aimée. Excusez-moi, je sens que j'ai... Et je ne pense pas que je m'aimerai un jour. Voilà. Mais en revanche, je n'ai pas de problème de ma féminité. J'ai de longs cheveux et tout. En revanche, ça, j'assume totalement. Hein. J'aime bien avoir des courbes. Voilà. Mais je ne pense pas que je pourrais m'aimer un jour. Et en fait, les meilleurs combats que j'ai pu mener dans ma vie, c'était pour les autres.
Cet engagement féministe que vous portez, au-delà de cette défense des autres, parce que vous êtes une femme, donc être féministe, c'est aussi vous, défendre vous. C'est dire, je dois être respectée et j'ai le droit de me libérer de tous les carcans qu'on nous assigne parce qu'on est femme. Donc, est-ce que vous pensez que ce combat, donc fait, enfin, le fait d'être féministe, c'est quelque chose qui a toujours été là comme ça en vous ? Est-ce qu'un jour, il y a eu la rencontre avec...
Non, ça a toujours été... Comment vous expliquer ça ? En fait, on m'a beaucoup reproché mon physique, des défauts, les trucs. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la génétique parce que je sais pas... Je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce que j'ai ça, ce qu'on me reproche ? Pourquoi est-ce que j'ai... Tiens, ma grand-mère avait ça, mon père avait ça, etc. etc. Donc, je me suis intéressée beaucoup à la génétique. D'ailleurs, j'ai réussi à 100%. J'ai eu mon examen en école secondaire, sans étudier en plus. Donc, c'était très évident pour moi. Le cours, j'étais comme une éponge, voilà. J'ai tout compris tout de suite. Malheureusement, comme j'étais une fille, on m'avait mise dans les langues germaniques, on n'a pas écouté ce que je voulais faire comme étude. Ça a commencé très très jeune, j'ai commencé à demander à 7 ans. Je ne sais même pas si mon père sait actuellement, ni sa xième femme qui m'a écrit un SMS d'une dureté. Je pourrais vous le lire tout à l'heure, je le retrouvais. Ça vaut la peine de voir ce qu'on peut encore m'écrire à mon âge, parce que j'ai 56 ans, hein, voilà. Donc ce qu'on peut encore m'écrire à mon âge. Donc
on vous a privé d'une orientation plus scientifique.
Non, là c'était déjà trop tard parce qu'on m'avait mise de force dans les langues germaniques. Donc de toute façon, il aurait fallu que je redescende d'année et c'était pas possible. Et puis je pense même pas que mes parents auraient pris la peine de m'offrir des études universitaires ni rien. Moi j'ai recommencé mes études toute seule, j'ai payé tout moi-même, j'ai commencé mes études à 28 ans. Et j'engage toutes les personnes qui veulent commencer des études à n'importe quel âge à le faire. Parce qu'à 28 ans, j'étais complexée. Alors ça, c'est la pire des choses, c'est d'être complexée. Il ne faut pas être complexée. J'étais très complexée parce que dans l'école où j'allais, y avait des jeunes de 18 ans. Et comme j'ai toujours paru plus jeune que mon âge, en fait, les personnes ne s'en rendaient pas compte. C'est quand que je disais que j'avais 28 ans. Ah, quoi ? Presque 30 ans. Et j'engage... Vraiment, chaque personne qui hésite à faire des études, quel que soit son âge, on peut même commencer à 60 ans. Michel Galabru, que j'ai bien connu, disait « Pour tous les âges, il y a des rôles ». Voilà.
Et est-ce que vous avez fréquenté des lieux ou des organisations féministes à Bruxelles ? Est-ce que vous êtes de Bruxelles d'abord ?
Je suis moitié flamande, moitié wallonne à Bruxelles. J'ai essayé de fuir... le pays, pour fuir ma famille, mais ça n'a pas réussi. De toute façon, on peut jamais... Je ne suis pas libre dans ma tête. Les souvenirs, ils sont toujours là, tous les soirs. Encore maintenant, tous les soirs, j'arrive pas à dormir. Parce qu'il y a des idées qui reviennent. Voilà. Il faut savoir quand même aussi qu'il n'y a pas que dans les pays dits défavorisés qu'il y a de la malnutrition, des choses comme ça. Moi, on ne me donnait pas à manger quand j'étais petite. Ma mère, elle ne se rendait pas compte. Elle-même avait été maltraitée, donc elle ne se rendait pas compte que j'étais pas une chose, que j'étais un enfant, un être vivant. Et donc, elle me laissait partir le ventre vide. Donc, tous les cours du matin, de toute façon, je les ratais parce que, voilà, quand on est affamé, on est affamé. Et j'en ai gardé des séquelles, voilà, et physiques et morales, parce que quand vous voyez les autres enfants qui ont à manger ou qui ont un 10 heures ou qui ont même une petite pièce pour acheter une boisson au distributeur, c'est il n'y a pas que la faim, il y a aussi l'image que ça renvoie, qu'on n'est rien. Est-ce que c'est terrible quand on est petit, tout le monde a un 10 heures avec des sucreries, avec quelque chose, et vous n'avez rien. Non seulement vous avez faim, mais je crois que la faim, c'était moins grave même que cette image. Enfin, je ne sais même pas comment le verbaliser.
Mais est-ce que vous avez trouvé des structures d'aide, des structures qui vous ont aidé à un moment donné,
Non.
En tant que fille, en tant que femme ?
Rien du tout, même pas dans la famille. Donc, ma mère s'est séparée de moi, elle ne voulait plus me garder, m'héberger, disons, parce que je me suis jamais sentie chez moi forcément. Et donc, elle s'est séparée de moi, on va dire ça poliment, à 16 ans, et personne n'a voulu de moi, ni mon père, ni sa femme de l'époque, ni mon oncle, ni ma tante, ni mes grands-mères, personne. Il n'y a eu d'aide d'aucun côté. J'ai réussi à terminer mes études secondaires parce que je voulais absolument avoir mon diplôme. Et là, une fois de plus, en fait, pour pouvoir ne fût-ce qu'acheter un livre ou quoi que ce soit, parce qu'on a des examens, il faut avoir lu le livre. Donc j'essayais de l'emprunter à des copines, mais qui me le filaient évidemment le jour avant l'examen. Donc j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de mal. Et j'ai encore une fois de plus crevé de faim, quoi. Donc voilà.
Mais néanmoins, vous êtes là, vous avez mené un combat.
Oui, c'est grâce à Facebook. Voilà, j'ai rencontré pas mal de féministes et puis bon, j'ai habité Paris pendant pas mal de temps. Et puis j'ai rencontré une personne qui s'appelle Flo Marandais. Elle a vraiment sympathisé et on s'est rencontrés, on a organisé un pique-nique parce qu'elle n'habite pas Paris. Et elle passait à Paris justement à ce moment-là. Et en fait, ce pique-nique, il n'y avait rien de particulier. On a juste parlé. On était peut-être 10, 12, 14, pas plus. Et ça a déclenché quelque chose parce qu'à ce moment-là, j'habitais vers Barbès, Château Rouge, quartier assez chaud. Et là, il y a le harcèlement de rue qui est terrible. Ça, dès que vous sortez, quoi. Hein, voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai toujours été énormément harcelée en rue et j'ai toujours intériorisé ma colère. J'avais peur de me défendre, en fait. Donc je partais, je rasais les murs, etc. Et avec ce pique-nique féministe, alors qu'il n'y a pas eu de préparation, il n'y a rien eu, je ne sais pas, il y a eu un déclenchement. Donc le lendemain, je me suis fait harceler dans la rue. Et j'ai dit au type, en plus c'était un monsieur, quoi, c'était la quarantaine, hein, c'était même pas un gamin. Et j'ai dit, monsieur, ceci est du harcèlement sexuel, c'est punissable par la loi. En fait, j'étais pas forte, j'avais peur, hein, moi-même j'avais peur. Et puis je dis, mince, qu'est-ce qui va m'arriver? Et comme il y avait une dame assez forte, de la même communauté que le monsieur, un peu mama, comme ça, je me dis, je vais demander la protection de cette dame. Je lui dis, ah madame, vous avez vu comment ils nous traitent? Et alors elle a dit oui. Et puis le monsieur s'est excusé. Et puis là, ma peur, elle est partie parce que je me suis rendu compte que la parole, c'était pas mal. Et puis j'ai continué de plus en plus. Et maintenant, en fait, si je me fais harceler, il y a une posture, j'ai fait tout ça tout seul. Hein. Il y a une posture, il ne faut pas approcher son corps de l'autre personne, mais vous pouvez approcher votre pied en disant quelque chose. Bon, évidemment, s'ils sont 10, je ne le fais pas. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais, et donc, il faut. Moi, j'ai travaillé ma voix, je suis linguiste, donc je peux porter ma voix sans crier. Il est important aussi pour les femmes qui font souvent dans les aigus, il faut rester dans les graves et mettre les points au fond, au bout des phrases. C'est-à-dire, par exemple, ceci est du harcèlement, c'est punissable par la loi, ça n'ira pas. C'est pas à crier comme ça. Si vous dites, ceci est du harcèlement sexuel, c'est punissable par la loi, vous descendez le ton. J'avoue tant vous dire que ça fait de l'effet. Et alors, j'ai affiné ma technique, ça a été très vite, ça a été en quelques jours. Alors, je dis, premier avertissement. Et puis voilà, et puis jusqu'au troisième avertissement où j'avance mon pied, et puis et en général les gens s'enfuient, ils s'excusent, ou je leur fais vraiment peur. Il y en avait à un moment donné trois, très jeunes, et manifestement des voyous. Genre j'ai pas supporté, quoi. C'est plus fort que moi. Et puis, il a fait, si je pouvais le mimer, si c'était filmé, ce serait amusant. C'est comme dans un dessin animé, il a fait un bond en arrière, et je lui ai fait vraiment très très peur. Ils étaient trois et beaucoup plus jeunes que moi, donc bon. Manifestement, ils auraient pu me faire beaucoup de mal, quoi.
Mais donc, il y a des combats gagnés sur cette histoire malheureuse qui dans laquelle vous avez démarré. Et ces victoires, elles sont aussi le fruit de rencontres avec des femmes, à un moment donné. Donc, il y a eu quand même une communauté de femmes. Est-ce que vous êtes toujours... Enfin, aujourd'hui, est-ce que... Vous cultivez encore ça ou est-ce que vous avez envie de laisser un enseignement aux plus jeunes qui seraient peut-être dans la situation dans laquelle vous étiez?
On peut venir me consulter si on veut pour la posture du corps et tout ça. Là, j'étais à Bruxelles, donc il n'y a pas de souci. Je vous laisserai mon numéro si vous voulez transmettre. À part ça, je ne vois pas ce que je pourrais dire à part mon témoignage. Je crois qu'il n'y a pas de formule toute faite parce que chacun et chacune a son histoire. Voilà, je ne vois pas ce que je pourrais conseiller, vraiment pas. À part évidemment qu'il y ait plus d'associations, plus d'accompagnement, plus d'écoute. Pouvoir partager, ça c'est très important. Parce qu'après on se rend compte qu'on n'est pas seul.
Et vous avez pu construire une famille de cœur à défaut d'une famille.
Oui, mais c'est pas facile parce que les gens croisent votre vie, s'en vont, ont leur vie aussi. C'est, voilà, c'est pas facile. Mais j'en ai une petite, oui. Mais on se voit pas souvent, malheureusement. Et mon meilleur ami est comédien, il va tout le temps à Los Angeles, donc ouais, il me manque beaucoup. Voilà, puis je garde son chat là, je fais 4-6 heures par là. Voilà.
D'accord. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
Ben, j'aurais voulu ajouter par rapport à l'histoire de ma grand-mère, parce qu'il y a quand même aussi peut-être des répétitions. Donc, j'ai ma grand-mère paternelle qui est née donc le 28 juin 1913 en Wallonie, quelque part. J'ai oublié l'endroit. Et elle chantait merveilleusement bien. Elle était contralto, ce qui est très rare chez les femmes. Et donc, elle chantait tellement bien qu'il y avait un prof, ou une prof, ça, je me souviens plus du détail, de musique qui lui donnait des cours gratuitement. Ce truc, elle a un talent fou. Et dans le village, mais en fait, tout le monde s'arrêtait devant la maison pour l'écouter chanter. Alors, on l'a empêchée de chanter. Et effectivement, quand j'ai demandé à ma grand-mère, j'ai dit, j'étais enfant, je ne savais pas encore très bien ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire quelque chose d'artistique. Je dis, écoute, je voudrais faire de la batterie. Elle me dit, ah non, 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 ça fait du bruit. Enfin, elle ne s'est pas inspirée de sa propre histoire pour essayer de m'élever. Il ne faut pas oublier que quand les parents disent, oh, oui, mais j'ai élevé mon enfant, souvent c'est faux. À la limite, éduquer. Élever, il faut savoir que ça veut dire porter vers le haut. Et voilà, moi, on ne m'a pas élevée. Voilà. Et donc, ma grand-mère, elle a fait la même chose. Elle a estimé que ce n'était pas grave. Et en fait, moi, je voulais être violoniste. Si un jour mon père là m'entend, enfin il a 82 ans, peut-être qu'il m'entend jamais, mais je pense qu'il ne le sait même pas. Voilà, parce qu'il est parti, il a quitté ma mère et voilà. Je suis devenue, quand mon père a quitté ma mère, je suis devenue ce qu'on appelle maintenant aidante proche. Puisque même petite, ma mère pleurait tellement, elle me disait, c'était à se taper la tête contre les murs, j'étais au bout du rouleau, j'essayais de faire tout ce que je pouvais pour l'aider. Donc en fait, j'ai endossé un rôle à 6-7 ans déjà d'aidante proche. Ça n'a pas été très bon, je pense, pour mon développement non plus, parce qu'un jour, je dis, mais regarde maman, si je me tape la tête contre les murs, je me suis tapé la tête contre le mur, quoi. Parce qu'évidemment, c'était imagé ce qu'elle disait. Et moi, je l'ai pris, j'étais une enfant, quoi. Et voilà, et puis maintenant, je m'occupe toujours de ma mère qui ne savait pas que j'étais un être humain. Mais la loi, en fait, la loi, l'État belge vous rattrape bien. Hein. L'État ne vient pas vérifier si on vous donne à manger, si vous êtes martyrisé, si vous êtes ceci ou cela. Parce qu'il y a plein de façons de martyriser les enfants sans que ça se voit. Et je ne dirais pas lesquelles, parce que je ne voudrais pas donner des idées à certaines personnes. Un jour, j'en ai parlé à une dame et... Elle restait, elle m'a dit, j'espère que vous ne faites pas ça. Je dis, bien sûr que non, je ne fais pas ça. Je dis simplement, je vous donne un exemple de ce qu'on peut faire comme torture et qu'on ne le voit pas. Voilà, donc je ne le dirai pas. Parce que ça, voilà. Mais l'État n'est jamais venu. Mais maintenant qu'il faut que je paye tous les mois pour la maison médicalisée de ma mère, l'État, il est là. Hein. Et l'État veut saisir la maison maintenant. Et je risque de me retrouver à mon âge, SDF, parce que je dois aider ma mère, qui, elle, ne m'a pas aidée. Elle ne m'a pas élevée, elle ne m'a pas portée vers le haut. Mais aussi a été victime de sa naissance d'être femme. Malheureusement, elle avait un frère, mais elle est née la première. S'il y avait eu le garçon d'abord et la petite fille, je pense que ça aurait été pour elle. Et comme elle est née la première, et bien après, il y a eu mon tonton, et c'était tout pour mon tonton, ma mère n'était rien. Voilà, ma mère n'a pas pu faire d'études, mon tonton, il était dentiste, quoi, avec sa maison en marbre. Hein. Tout le truc, on voit la différence. J'ai vécu dans la misère avec ma mère. Et du côté de mon père aussi, il est richissime, mon père. Alors que moi, j'ai rien. Il y a des jours où je ne mange pas. Non, c'est comme ça. On s'habitue à plein de choses, quoi. Mais là, je commence à vraiment fatiguer. Mais on le voit, hein, je suis assez blessée corporellement. Et je lutte contre le système belge qui n'apporte aucune aide. Et dans mon programme du collectif citoyen, que je n'estime pas comme être un parti, enfin en tout cas, mon petit travail à moi sera aussi pour que les aidantes et les aidants proches soient désormais payés. parce que c'est même pas du 8 heures par jour, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous sommes au mois de juin 2019. La dernière fois que je suis partie en vacances, c'était au mois de juin 1999. Ça fait 20 ans. Et même si on m'offrait des vacances demain, je ne pourrais même plus les prendre. Parce qu'il y a tellement d'ennuis, je suis tellement en lutte pour essayer que de retirer la tutelle, parce qu'on a mis ma mère sous tutelle de façon arbitraire. Oh là là, il arrive des choses dans cette société. En fait, je ne pourrais même pas prendre de vacances, parce que dans ma tête, j'ai plus de vacances, c'est fini.
La base, ce sont des histoires et une cartographie de Bruxelles à écouter sur bna-bbot.be.